Vous écoutez RTL. C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Et il y en a pour tous les goûts, et tant mieux en termes d'exposition, de livres, de théâtre, de cinéma et de musique. Bonjour Anthony.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Dans un instant, il y a de la voix avec vous, Stephen Bellery.
Une des voix françaises qui voyage le plus, Mireille Mathieu.
Bernard Lehu, un roman coup de cœur à glisser dans notre bibliothèque.
Eh bien, je vais vous emmener vers la beauté. Enfin, c'est David Fuenquinos plutôt.
Sophie Orange, et une nouvelle idée de sortie en famille avant le week-end.
Le hameau de la Reine, plus précisément, la toute nouvelle maison de la Reine, magnifiquement restaurée.
Et puis on retrouvera nos secrets de producteurs avec à l'affiche Stéphane Boutsock.
C'est Thomas Sy qui vous le dit. Demain, tout commence.
Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL.
Il y a de la voix, Stephen Bellery, et on referme cette belle série de confidences autour de la voix avec Mireille Mathieu.
Une globe-trotteuse, Mireille Mathieu a fêté il y a un mois ses 71 ans et fourmille de projets. Elle donne des concerts chaque année aux quatre coins de la planète. Elle a publié une nouvelle compilation fin 2017. Il y a de la voix aujourd'hui avec Mireille Mathieu.
Toute petite, je chantais à l'école et à l'église, et aussi chez moi, parce que mon papa avait une voix de ténor. Alors tout le monde disait, ben oui, tu as une belle voix, tu as une belle voix. À l'église, j'avais pas besoin de micro, parce que bon, il y a un écho naturel.
Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi.
Chaque fois quand on arrivait à l'école, on entonnait la Marseillaise. Et je chantais avec tout le monde, j'ai éprouvé un immense plaisir.
Aux
C'était un rêve d'enfant de devenir chanteuse. Je ne savais pas que ça allait se concrétiser, se réaliser. Grâce d'abord à Avignon, il y avait des radios-crochets dans les quartiers. J'ai chanté, j'étais très mauvaise. Je l'ai fait trois fois et la troisième fois, j'ai gagné. Et c'est la mairie d'Avignon qui a payé mon billet pour que je puisse venir me présenter au jeu de la chance. Et c'est là que tout a commencé, que j'ai rencontré mon manager Johnny Stark.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère.
Quand je suis montée à Paris, mon manager Johnny Stark m'a dit « Mireille, il faut travailler ta voix ». Et j'ai eu la chance de travailler ma voix avec une très très grande dame qui s'appelle Madame Janine Rice. Elle travaillait qu'avec Maria Callas, que des chanteurs d'opéra. Et quand je me suis présentée devant elle, elle m'a dit « Mademoiselle, vous voulez travailler avec moi ?» Alors j'ai dit « Oui madame, je ne sais pas ce que je vais vous apprendre ». Oh, je lui ai dit « Madame, tout ». Quand j'étais adolescente, comme était la radio, Madame Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable.
Pour moi, pour l'opéra, c'est l'équivalent de Maria Callas. Même étant enfant, on est subjugué par ces deux voix. Ça vous donne la chair de poule, on est complètement transporté, c'est extraordinaire.
L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de moi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Je pense que j'ai une voix qui est forte. Ah, c'est un vibrato complètement différent. Ça, c'est un vibrato naturel.
Et l'accent fait partie de votre voix aussi.
Oui, mais quand je chante, je n'ai pas d'accent.
Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille.
Mais c'est mon oxygène, je chante tout le temps. Je crois que c'est quelque chose qui est vital pour moi. Dans la tristesse ou dans la joie, c'est en moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais c'est un don de Dieu, c'est le bon Dieu qui me l'a donné. J'étais la première de 14 enfants et je pense que c'est ça.
L'enfant que je n'ai jamais eu, celui que tu n'as pas voulu, l'enfant que je n'ai pas gardé.
C'est un travail de tous les jours. C'est 9-10 heures de sommeil. Je me réveille, petit déjeuner, je me prépare. Doucement, il ne faut pas agresser sa voix. On ne peut pas pousser des cris ou chanter très fort le matin. Pas trop parler, c'est une chose aussi importante. Pas trop parler, ça c'est un défaut que j'ai. J'ai besoin parfois de parler. Après, je vais généralement à l'église. Je demande s'il n'y a pas trop de monde de chanter, je chante un peu. Après, je vais au théâtre, je vais saluer toute mon équipe. J'ai besoin de chauffer ma voix, c'est indispensable.
Que
la
Dernière question, est-ce que vous aimez votre voix?
Je me déteste, il y a des moments où je me déteste quand je travaille. Non, recommence, c'est pas ça. Il y a des moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Il faut savoir se juger, d'être intraitable avec soi-même. Mais ça me permet d'avoir comme si j'avais des ailes. Quand j'allais à l'école et que j'étais nulle, et j'aimais pas du tout l'école. Quand il venait la géographie, j'étais toute petite, je me cachais derrière une grande. Il ne peut parler, je ne connaissais jamais ces pays. Et que je connais tous ces pays grâce à ma voix. Donc je peux remercier ma voix de connaître tous ces pays du monde entier, toutes ces cultures, grâce à ma voix. Merci mon Dieu, merci papa et maman, parce que c'est vous qui m'avez donné cette voix.
Génial. Mireille Mathieu, elle récite sa voix unique. C'était un rêve d'enfant de devenir chanteuse. C'est mon oxygène. Je chante tout le temps. C'est vital pour moi, nous a-t-elle dit.
Et petit confidentiel, Mireille Mathieu publiera cet automne un disque où elle revisite pour la première fois de grands airs classiques à l'instar de pièces signées Mozart, Tchaïkovski, Bach ou Schubert. Elle y travaille depuis des mois avec l'Orchestre symphonique de Prague.
Et elle viendra nous le présenter puisqu'on le dit à chaque fois, mais on la salue, on la remercie. C'est une auditrice très fidèle de Laissez-vous tenter. Elle nous écoute tous les jours. Et on n'oubliera évidemment pas ce moment.
Je pense que j'ai une voix qui est forte.
Voilà, ainsi s'achève cette série estivale. Il y a de la voix, de nombreuses confidences recueillies et mises en onde par Steven Bellery. Merci Steven pour cette saga. Bernard Lehu, pour notre dernière visite dans notre bibliothèque idéale de l'été, plus calme, vous nous emmenez vers la beauté.
Le titre du roman de David Fuenquinos, Antoine Duris, éminent professeur aux Beaux-Arts de Lyon, quitte tout du jour au lendemain, monte à Paris et se fait embaucher comme simple gardien au musée d'Orsay. Pourquoi ce choix d'une vie déclassée, solitaire, sacrifiée? Quel chagrin, quel drame ou quel crime fuit Antoine Duris? Ne comptez pas sur moi pour révéler le secret lové au cœur de Vers la beauté. Lors de la sortie de son livre, David Fuenquinos nous avait parlé d'Antoine, son héros énigmatique et attachant.
C'est quelqu'un dont on ne connaît pas les motivations. Il va se réfugier au musée d'Orsay en tant que gardien de salle, alors que c'est un professeur émérite aux Beaux-Arts à Lyon.
Oui.
Et finalement, c'est quelqu'un qui... le sujet principal, c'est d'aller se réfugier dans la beauté. Chacun cherche son propre chemin vers sa consolation, et lui, il a vécu, apparemment on comprend assez vite, un drame ou quelque chose d'extrêmement douloureux, et il va aller s'apaiser d'une certaine manière en étant face au tableau de Modigliani dans cette salle du musée d'Orsay.
Et à ce propos, Bernard, je me souviens d'une phrase du livre de David Fuenquinos que vous aviez citée, la puissance cicatrisante de la beauté.
Mais oui, un thème cher à l'écrivain.
Oui, c'est vraiment le sujet principal du livre, et je me suis rendu compte aussi en l'écrivant à quel point cela avait des résonances personnelles. Moi, j'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital. J'ai été opéré du cœur. Et c'est vrai que les livres m'ont sauvé d'une certaine manière. Et la culture, la beauté, la peinture, la musique, je me suis nourri finalement de toute cette sensualité.
Alors allez vite découvrir ce qu'Antoine Duris, le héros brisé de David Fuenquinos, cherche à oublier, à cicatriser. Vous ne serez pas déçus. L'auteur de l'inoubliable Charlotte a le don à chaque fois d'émouvoir sans tomber dans le pathos, dans la lourdeur, vers la beauté. On offre une nouvelle et séduisante démonstration. C'est un livre Gallimard.
Et dès lundi, Bernard, à 9h dans Laissez-vous tenter, place aux nouveautés de la rentrée littéraire. Merci pour toutes ces idées de lecture, en tout cas partagées depuis maintenant 6 semaines.
C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
Allez, c'est reparti, Anthony. Et avec Stéphane Boutsock pour un dernier secret de producteur de l'été. Stéphane, vous nous faites découvrir les coulisses d'un film sorti en 2016. Demain, tout commence avec Omar Sy, film réalisé par Hugo Gélin et produit par Philippe Rousselet.
Un de ceux et celles qui, depuis la mi-juillet, nous ont raconté les difficultés parfois terribles pour monter un projet. Et ben là, c'est tout le contraire. Tout commence demain est à la base un film mexicain qui s'appelle « Ni repris ». Ni échanger.
Heureusement, notre métier n'est pas fait que de difficultés. On peut avoir aussi des films un peu plus simples. Et là, par contre, on l'a adapté, écrit le scénario français, casté le film, c'est-à-dire choisi Omar et les autres rôles, préparé, tourné, tout ça en un peu moins d'un an. Moi, je n'ai jamais eu un film qui s'est fait aussi rapidement.
Demain, tout commence. C'est l'histoire de Samuel, célibataire sans attache, dragueur, jusqu'au jour où une de ses ex-conquêtes vient le voir avec un cadeau un petit peu surprenant.
Tu ne me reconnais pas, c'est ça? Preston? L'été dernier, le bateau, les calanques?
Ah mais oui, Christine! Christine de Berlin!
De Londres.
De Londres, voilà, c'est ça, of course! C'est cool de te voir avec ton bébé.
C'est ta fille?
Non, c'est malencontreux, mais non! Voilà, allez, bisous!
T'as pas 20 euros pour le taxi, s'il te plaît?
Ça oui.
Alors, c'est malencontreux. En fait, j'adore cette réplique. En fait, Catherine se sauve, laisse sa fille derrière elle. Durant 8 ans, Samuel, devenu cascadeur à Londres, élève seule la petite Gladys, invente une vie d'espionne imaginaire à la maman absente, jusqu'au jour où Catherine revient et demande la garde de Gladys. Situation compliquée par la maladie qui rôde.
Bientôt, maman, elle aura fait tous les pays du monde.
Mais non, il doit en rester quelques-uns quand même.
4.
T'as compté?
Bah ouais, peut-être que quand elle aura tout fini, elle repassera par Londres.
Ça dépend de sa mission.
Ou alors, elle est déjà venue, mais elle n'a pas le droit de nous le dire.
Il y a ça aussi. C'est pas con.
C'est pas trompé parce que le film a été vu par plus de 3 millions de spectateurs en France et surtout par entre 7 et 8 millions de spectateurs dans le monde. Donc il est devenu en 2017 le film français le plus vu à l'international, notamment en Allemagne, en Italie, enfin partout. Le film a été un immense succès, quoi.
Alors le succès repose sur les épaules de Marcy, mais aussi sur son rôle. C'était une sorte de pari de lui confier un rôle de papa, aimant, fou de sa fille, bien décidé à la garder coûte que coûte.
Oui, absolument. Un personnage adulte, plus grave aussi, mais pour Philippe Rousselet, le choix de l'acteur était une évidence.
Je ne sais pas si c'est un pari parce que Omar, dans la vie, il est déjà père de 4 enfants. Hein, donc, et c'est un père très présent et il a ça en lui. Omar, il est solaire, enfantin aussi. Hein. Il a un rire que personne d'autre n'a.
Comment tu vas faire quand on sera plus tous les deux?
Pourquoi tu dis ça?
Bah, quand j'aurai un travail, je pourrai plus t'accompagner.
Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard?
Bah oui, je vais être comme toi.
Tu veux être cascadeuse?
Bah non, immortel.
Voilà, ce sont des rôles dans lesquels il excelle et dans lesquels on aime le voir. D'ailleurs, je suis ravi parce que je m'apprête à retourner un film avec lui là, cet été. Un film de Michel Hazanavicius avec lui, François Damiens et Bérénice Béjot, dans lequel il joue aussi le rôle d'un père. Donc chez lui, c'est naturel.
Tu nous as laissé comme des merdes. Et tu crois quoi? Qu'on va tout pardonner là en 2 minutes parce que t'as répondu à un mail?
Je te demande pas ça. Je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait.
Mais alors pourquoi tu l'as fait?
J'étais paumée. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pensé que je pouvais m'en sortir et ça a été le contraire, c'était de pire en pire. Je pouvais pas imposer ça à un bébé.
Donc toi, quand tu fais un baby blues, ben tu laisses ta fille à un mec qui t'a sauté un été, c'est ça que tu fais?
Je l'ai laissé à son père.
Les plus grands acteurs sont souvent les plus simples. Les entourages peuvent être compliqués. Bon, c'est pas le cas d'Omar d'ailleurs. Franchement, il a absolument pas bougé, quoi. Il est d'une authenticité et c'est assez agréable parce qu'il est, facile. Voilà. Enfin facile, il est exigeant. Il doute beaucoup aussi. J'ai eu affaire à beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. S'il m'écoute, il y en a qui devront probablement se reconnaître.
Omar Sy, donc, mais également la petite Gladys Colston, Clémence Poésy ou Clémentine Sélarié dans Demain, tout commence d'Hugo Gélin. On voit ça en DVD chez TF1 Studio.
Et la chanson River de Léon Bridges, hein, sur le générique de fin du film Tout commence demain. On s'est régalé tout l'été avec vos secrets de producteur, Stéphane. Merci pour cette saga ciné de l'été. Sophie Orange, une idée de sortie. Maintenant, oui. Direction le château de Versailles pour découvrir un endroit que personne n'avait jamais vu. C'est formidable. Il vient d'ouvrir au public après plusieurs années de travaux.
Il s'agit de la maison de la reine dans le hameau de la reine, le domaine de Marie-Antoinette. Un endroit très charmant, bucolique, à quelques encablures du Trianon. Là, nous sommes vraiment loin du château, du poids de la cour. Ici, tout est différent. D'abord, les chaumières sont de style normand, construites autour d'un petit lac entre 1783 et 1786. Et ce hameau, c'est vraiment Marie-Antoinette qui l'a voulu. La salle à manger au rez-de-chaussée est plutôt sobre. La pièce la plus spectaculaire, vraiment, c'est le salon au premier étage. Jérémy Benoît, conservateur en chef à Versailles, s'émerveille encore de toute la récente rénovation.
C'est une pièce totalement inattendue pour le public. On le savait, si vous voulez, par les textes, qu'il y avait une très grande rupture entre les extérieurs rustiques et l'intérieur qui se voulait absolument palatial, si j'ose dire. Mais là, les couleurs jaunes, boutons d'or, sont absolument étonnantes. Complétées par les rideaux de soie bordés d'un galon violet et or, de même que les sièges sont de même couleur, mais en velours de soie.
Marie-Antoinette avait une chambre ici, mais officiellement, en tout cas, elle n'y a jamais dormi. Elle passait de la maison de la reine à la maison du billard par une galerie extérieure en bois.
La vue est absolument spectaculaire, totalement inattendue. Je crois très sincèrement que c'est l'un des lieux les plus magiques de Versailles. Le raffinement et l'élégance que l'on voit ici dépassent à mon sens même les petits appartements privés de la reine à Versailles.
C'est vrai que c'est magnifique. Les pièces ont été remeublées, non pas avec des meubles de l'époque de Marie-Antoinette, tout a disparu au moment de la Révolution, mais comme si nous étions en 1810, date à laquelle l'impératrice Marie-Louise, la seconde femme de Napoléon, petite nièce de la reine d'ailleurs, s'est installée ici. Travail colossal pour retrouver fauteuil, vase, chaise, table et ce lit en pierre d'origine qui est très émouvant.
Mais alors que venait faire Marie-Antoinette au hameau de la reine, Sophie?
Grand chose, elle se promenait, elle recevait des amis qui jouaient au billard, au tric-trac, c'est un jeu d'argent très à la mode à l'époque. Elle déjeunait, son dessert préféré, des fraises à la crème, fraises du potager, crème battue sur place, s'il vous plaît. Le hameau était aussi et surtout un lieu pour ses enfants, notamment le dauphin, pour qu'ils connaissent la vie à la ferme, juste à côté. La reine avait même fait venir 17 brochets et 2000 carpes pour peupler le petit lac.
Nous sommes dans l'ambiance rousseauiste de la redécouverte de la nature, de la redécouverte du travail des paysans, une fantaisie de la reine. Nous sommes dans une espèce de château rustique éclaté en plusieurs maisons.
Car en plus de la maison de la reine et de la maison du billard, restaurée grâce à la maison Dior pour 5 millions d'euros, vous pourrez admirer une grange, un boudoir, un colombier, un réchauffoir, le moulin, la laiterie, la maison des gardes. C'est un vrai hameau. Marie-Antoinette était ici, chez elle, et vous pourrez découvrir son univers uniquement sur réservation et en enfilant des surchaussons pour ne pas abîmer les sols. Il faut réserver, mais il faut réserver.
On ne met pas les pieds n'importe où. Un peu de tenue. C'est la maison de la reine dans le hameau de la reine à découvrir au château de Versailles. Merci Sophie pour toutes les étapes de cette belle promenade en France cet été sur RTL. Allez, place à notre pépite du jour. Le 23 mars dernier, une rencontre avec le réalisateur qui est sans doute le plus populaire de la planète, Steven Spielberg. À votre micro, Stéphane Boutsock. Spielberg nous a raconté les héros de son enfance.
Quand j'étais gosse, mon premier héros de cinéma a été Davy Crockett. C'est un film Disney qui est sorti dans les années 50. Moi, j'avais dans les 9 ans. Et c'est là que j'ai compris ce qu'un tel personnage pouvait produire comme effet. Mes parents m'ont acheté la panoplie, comme la fausse corne à poudre pour recharger mon fusil en plastique, et dans le voisinage avec mes copains, on était tous déguisés en Davy Crockett. Et la deuxième fois où ça m'est arrivé, c'était avec le feuilleton Superman, interprété par George Reeves. C'était 2 ans plus tard, et dans les rues, vous pouviez croiser les mêmes gamins en train de courir avec leur cape et un gros S peint sur leur t-shirt en essayant de s'envoler. Toute cette idée de culture populaire est vraiment partie pour moi de ces deux programmes.
Voilà, Spielberg a été un enfant aussi.
Ah, oui, c'est ça en fait. Qui nous fait rêver toujours.
Confidence dans Laissez-vous tenter. Allez, musique, on sollicite notre jukebox une dernière fois. Voici notre duo du jour. Ah, c'est très dur parce que leurs deux voix sont mêlées sur la même tonalité. En 1974, Elton John donne un concert au Madison Square Garden de New York et un certain John Lennon le rejoint sur scène pour cette version en duo du titre des Beatles. C'est sur l'album Live Here and There d'Elton John. Merci de nous avoir suivis tout l'été. Merci à l'indispensable Raphaël Nivois qui était aux manettes en régie. On se retrouve et on le retrouve lundi à 9h pour une nouvelle saison de Laissez-vous tenter avec toute l'équipe et Yves Calvi. Bon week-end.
Merci Anthony, on est impatients d'être un lundi matin, évidemment.